Tu sais, quand on regarde un film au cinéma, dès que l'écran devient noir et que les crédits de fin commencent, bah, la plupart des gens se lèvent.
Ouais, on met son manteau, on prend son pop-corn et on y va.
C'est ça, l'histoire est terminée, donc on passe à autre chose. Et d'une certaine manière, on fait exactement la même chose avec les textes anciens. On arrive à la toute dernière page d'un document majeur, on tombe sur, genre, un énorme mur de noms complètement imprononçables et on ferme le livre.
Oui, on zappe la fin.
Exactement. Et prends l'épître aux Romains, par exemple. Le chapitre 16 se termine par une très longue liste de salutations. Et à première vue, on dirait une sorte de liste de présence bureaucratique super ennuyeuse. Mais d'après les notes de recherche du docteur Kalkiner que nous analysons aujourd'hui dans cette plongée, bah, sauter ce générique de fin, ça revient à ignorer un scandale politique antique, un mystère archéologique et même la survie, enfin presque miraculeuse, de l'un des textes les plus influents de l'histoire.
C'est clair, c'est vraiment là que ça devient intéressant.
Ok, alors décortiquons tout ça. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce texte a pu voyager et surtout survivre grâce à un réseau humain totalement improbable.
Eh bien, pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui se joue dans ces dernières lignes, il faut d'abord qu'on efface complètement de notre esprit notre conception moderne de la communication.
D'accord?
Parce qu'aujourd'hui, bah, tu appuies sur envoyer. Et paf, un document traverse la planète. Ou au pire, tu le déposes à la poste. Mais dans le monde gréco-romain du 1er siècle, le concept même de service postal pour les civils, c'est une illusion totale.
Attends, il n'y avait pas de poste du tout?
Pas pour toi et moi, non. L'Empire romain possède bien ce qu'on appelle le cursus publicus, qui est un réseau de relais et de courriers extrêmement efficace, mais c'est strictement militarisé. C'est uniquement réservé aux affaires d'État.
Ah, donc un civil normal, même s'il est super riche, il n'y a pas accès.
Absolument pas. Donc imagine, tu es à Corinthe et tu viens de rédiger un traité philosophique et théologique hyper complexe destiné à Rome. Bah, tu fais face à un problème logistique massif.
Ouais.
Ta seule vraie solution, c'est de trouver quelqu'un qui a par hasard déjà prévu de faire ce trajet maritime super dangereux et de le convaincre de prendre ton rouleau de papyrus avec lui.
Ouais.
C'est quand même une idée hyper effrayante. C'est un peu comme si aujourd'hui tu écrivais le document le plus crucial de ta carrière, genre l'œuvre de toute une vie, et que tu allais au terminal d'un aéroport international.
Ouais.
Et là, tu repères un type au hasard avec un sac à dos, tu lui glisses ton unique copie physique dans les mains et tu lui dis s'il vous plaît, prenez le bon vol, tu espères qu'il se fasse pas voler, qu'il oublie pas ton dossier sur un siège près de la porte d'embarquement. Enfin, c'est fou. Mais c'est exactement ça. Et ta comparaison est d'autant plus juste que le voyage maritime dans l'Antiquité, c'était terrifiant.
Ouais, les naufrages et tout.
Les naufrages, les pirates, les tempêtes, le taux de perte était énorme. Et cette dépendance à des voyageurs complètement aléatoires, ça crée une dynamique de l'urgence qui est très spécifique à l'époque.
Ah bon, oui.
Oui, on en a d'ailleurs une preuve vraiment frappante dans la correspondance de l'orateur romain Cicéron.
D'accord.
Dans l'une de ses lettres, on peut littéralement lire son stress. Il écrit en substance, en truc du genre « J'avais une autre lettre qui était déjà scellée, prête à partir avec le voyageur que j'avais trouvé, mais là, quelqu'un vient juste de toquer à ma porte pour me dire qu'il part pour ta ville immédiatement. »
Oh wow.
Donc il ajoute « Je gribouille ce mot en hâte pendant qu'il est en train de mettre son manteau. »
Le stress absolu, quoi.
Totalement. Toute la vie intellectuelle et sociale de l'époque dépendait entièrement de ce flux incessant et hyper chaotique de marchands, de soldats en permission ou d'artisans.
Et en fait, ce flux humain, c'est précisément ce qui se matérialise dans cette fameuse liste de la mort à la fin de l'épître aux Romains. Paul est à Corinthe, il s'apprête à envoyer ce rouleau massif vers Rome, et soudain, tout son entourage en profite pour dire « Attends, glisse mon nom, dis-leur bonjour de ma part. »
C'est ça, on fait passer le mot.
Et les premiers noms qui apparaissent nous donnent vraiment des indices sur l'échelle de ce réseau. On a Timothée, Jason, Sosipater. Qui sont ces gens, en fait, qui squattent la fin de la lettre?
Eh bien, ce sont les rouages même de la machine. Timothée, c'est le protégé de longue date. C'est la relève qui est préparée pour continuer le mouvement. Mais Jason et Sosipater, eux, sont particulièrement révélateurs de la géopolitique interne du groupe.
Comment ça?
Ce sont des Macédoniens. Ils ont voyagé depuis le nord de la Grèce jusqu'à Corinthe dans un but très très précis, qui est de sécuriser et de transporter une énorme collecte de fonds destinée à Jérusalem.
Ah, donc ils ont de l'argent sur eux.
Exactement. Et transporter de l'argent liquide sur les routes romaines, bah, c'est s'exposer directement aux bandits de grand chemin.
Bien sûr.
Donc il fallait voyager en groupe, d'où cette espèce de délégation internationale qui se retrouve concentrée pile au même moment autour de Paul.
Et dans cette délégation, il y a aussi un certain Lucius. Forcément, quand on croise ce nom dans ce contexte, on pense tout de suite à Luc, l'auteur de l'Évangile et des Actes. C'est le médecin qui voyage avec eux, non?
C'est lui qui fait passer le bonjour.
Alors, c'est une hypothèse qui circule beaucoup, mais les données textuelles internes l'invalident assez rapidement, en fait.
Ah ouais?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que dans cette section précise, Lucius est mentionné par Paul comme l'un de ses parents, ce qui, dans son vocabulaire à lui, désigne un compatriote juif.
Ok.
Or, si on croise ça avec d'autres documents de la même époque, comme l'épître aux Colossiens par exemple, le médecin Luc est explicitement catégorisé en dehors du groupe des circoncis.
Ah, d'accord, donc c'était un païen à l'origine. Voilà, ça l'identifie très clairement. Donc, ce Lucius-ci, dans notre liste, c'est très probablement juste un membre local de la communauté de Corinthe, qui n'a aucun lien avec la rédaction littéraire majeure.
D'accord, donc on écarte le médecin. Mais cette idée de rédaction littéraire, ça soulève un point super matériel. Parce que on s'imagine toujours ces auteurs anciens, seuls à un bureau, en train de gratter avec une plume à la main.
L'image d'Épinal, oui.
Ouais, voilà. Pourtant, au beau milieu de ce texte, la perspective, elle change brusquement. Un certain Tertius prend la parole à la première personne, au milieu de la lettre de Paul, et il écrit « Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous salue. » Donc Paul n'a même pas écrit ce texte lui-même.
Et en fait, c'était la norme absolue. L'écriture physique sur du papyrus, c'était un métier technique vraiment laborieux. Tertius, c'est ce qu'on appelle un amanuensis, donc un scribe professionnel.
D'accord.
Et son nom, au passage, c'est un marqueur social d'une violence inouïe.
Comment ça, violent ?
Bah, Tertius, en latin, ça veut tout simplement dire troisième. Et si tu regardes plus loin dans la liste, on a même un quartus, le quatrième.
Oh !
Dans l'Empire romain, tu sais, les familles aisées ou les propriétaires d'esclaves ne s'embêtaient souvent pas à donner de vrais prénoms aux enfants ou à leurs esclaves. Ils se contentaient de les numéroter.
Waouh, c'est rude.
Oui. Et le fait que ce texte juridique et théologique, qui est incroyablement sophistiqué, soit physiquement tracé par un homme qu'on nomme juste numéro 3, bah, ça nous plonge directement dans la réalité de l'alphabétisation antique.
Justement, cette réalité, elle ressemble à quoi en termes de chiffres? Parce que si t'envoies une lettre hyper complexe à Rome, on présume que les gens de l'autre côté savent la lire, non?
Alors accroche-toi, parce que les estimations les plus optimistes des historiens placent le taux d'alphabétisation global autour de 10%.
Seulement 10%?
Oui. Dans un centre urbain commercial hyperactif, comme Corinthe, on pouvait peut-être, au mieux, atteindre 20 à 30% chez les hommes libres.
Ah ouais, c'est vraiment bas?
Et attention, savoir lire, pour un artisan de l'époque, ça signifiait souvent épeler très lentement un contrat de vente, hein, pas analyser la rhétorique complexe d'un traité philosophique.
Oui, il ne lisait pas du Proust.
Exactement. Les scribes comme Tertius faisaient partie d'une minorité technique, très souvent issue de l'esclavage grec d'ailleurs, qui maîtrisait la grammaire, la syntaxe et surtout la vitesse d'exécution.
Mais là, moi, j'ai un problème de logique fondamentale. Enfin, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais si on a un taux d'alphabétisation aussi bas, pourquoi diable envoyer un rouleau rempli d'arguments théologiques denses, de citations croisées et de concepts abstraits à une communauté où 80% des gens ne peuvent même pas déchiffrer une phrase?
Ouais, ça paraît fou.
Bah oui, c'est comme envoyer un manuel de physique quantique à des gens qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est absurde.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ce paradoxe s'effondre totalement quand on comprend la mécanique de la lecture antique.
Ah bon ?
Aujourd'hui, on a l'habitude que la lecture soit un acte silencieux, solitaire, presque asocial, tu vois. On lit un livre dans son lit ou dans le train avec ses écouteurs.
Ouais, c'est très perso.
Mais dans l'Antiquité, et particulièrement pour ces premières communautés-là, le texte n'est absolument pas un objet de consommation individuelle. C'est un événement sonore.
Un événement sonore ?
Oui. La lettre de Paul ou un texte comme l'Apocalypse, par exemple, s'apparente beaucoup plus à un script théâtral ou un grand discours politique qui est écrit spécifiquement pour être performé.
D'accord, je commence à voir.
Le document arrivé à Rome, on le confiait à un lecteur qualifié. Très souvent, c'était peut-être la personne qui l'avait transporté et qui connaissait déjà les intonations voulues par l'auteur. Et ce lecteur le déclamait à voix haute devant toute l'assemblée réunie.
Ce qui nous amène à un autre défi logistique hyper évident. Où est-ce qu'on réunit tout ce monde pour une lecture publique, Sam ?
Bonne question.
Parce qu'il n'avait pas d'église, de salle de conférence ou de bâtiment dédié. Et justement, dans notre fameuse liste de noms à la fin, le texte mentionne un certain Gaius, et il est décrit comme l'hôte de toute l'église. Donc, on se dit qu'on est chez ce Gaius. Mais concrètement, on parle de quel type d'espace ?
On parle de la domus romaine, la maison urbaine traditionnelle. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'édifice religieux chrétien au 1er siècle.
Zéro.
L'architecture d'une domus cossue, elle s'organise autour de l'atrium. C'est une grande cour centrale à ciel ouvert, avec un bassin pour récupérer l'eau de pluie. Et elle est souvent flanquée d'une salle à manger qu'on appelle le triclinium.
D'accord.
Et les fouilles archéologiques qu'on a faites à Corinthe montrent que même une très très grande maison patricienne de l'époque pouvait accueillir, en tassant vraiment tout le monde, une cinquantaine de personnes dans l'atrium.
Attends. Seulement 50 personnes ?
Oui, grand maximum.
Mais j'ai toujours eu cette image en tête, peut-être que ça vient des films ou des peintures, je sais pas, de débats passionnés dans de grandes synagogues avec des galeries surélevées. On entend souvent d'ailleurs que lors de ces réunions, certaines personnes, notamment les femmes, criaient depuis les balcons pour poser des questions ou participer.
Ah ça, c'est un anachronisme massif, mais qui a la vie super dure.
C'est faux.
Totalement faux. L'archéologie du 1er siècle, que ce soit en Judée ou dans la diaspora, ne montre absolument aucune preuve de l'existence de galeries ou de balcons dans les synagogues ou les lieux de réunion de cette époque.
Sérieux ?
Oui. Les balcons pour séparer les genres ou les classes sociales, c'est une invention architecturale médiévale.
Ah ouais.
Et on a projeté ça rétroactivement sur les textes anciens. La réalité sonore et physique de l'époque, c'est une foule littéralement entassée de plein pied dans la chaleur d'une cour intérieure corinthienne, avec une odeur de sueur et de lampe à huile, en train d'écouter un lecteur qui s'égosille pour couvrir le bruit de la rue.
C'est pas du tout la même ambiance.
Pas du tout.
J'ai toute l'église, à moins d'avoir un domaine agricole géant à des kilomètres de la ville.
La clé de voûte ici, c'est pas l'architecture, c'est la rhétorique antique.
Comment ça ?
Les auteurs de cette époque utilisaient constamment l'hyperbole. C'était un outil littéraire parfaitement accepté et qui était compris par tout le monde comme une exagération volontaire.
Ah, d'accord.
Le but, c'était de souligner une vérité émotionnelle ou un trait de caractère et pas du tout de donner une réalité mathématique. Donc dire qu'il est l'hôte de toute l'Église, c'est simplement dire qu'il est l'incarnation même de l'hospitalité radicale, que sa porte est ouverte à tout le monde.
C'est un peu comme la fameuse histoire du chameau et du trou de l'aiguille dans les Évangiles.
Exactement.
Parce que j'ai entendu, et d'ailleurs on lit souvent ça dans les guides de voyage quand on va là-bas, que le trou de l'aiguille, c'était en fait le nom d'une petite porte dérobée dans la muraille de Jérusalem.
Ah oui, je la connais.
Et que les marchands devaient soi-disant faire agenouiller leurs chameaux, les décharger pour passer la nuit. Et c'est censé être une belle métaphore sur l'humilité.
Et c'est une invention complète.
C'est faux aussi.
Mais complètement. Cette fameuse porte de l'aiguille, elle n'apparaît dans strictement aucune source archéologique ou historique ancienne. C'est un mythe qui a été fabriqué au Moyen-Âge et qui est aujourd'hui allègrement recyclé par l'industrie touristique israélienne, parce que ça fait une super belle histoire à raconter aux visiteurs.
Ah, ça fait vendre des billets, quoi.
Voilà. Non, quand l'auteur antique utilise cette image, il parle très littéralement d'un vrai chameau qui pèse une demi-tonne et d'une vraie petite aiguille de couturier en métal.
D'accord.
Le but de l'hyperbole, c'est précisément l'absurdité visuelle de la chose. C'est drôle, c'est choquant et c'est ça qui marque les esprits. Pour Gaius, c'est la même mécanique, tu vois. On amplifie le trait pour honorer son immense dévouement.
Ok, donc le décor est bien planté. On est tous tassés dans l'atrium de Gaius, avec Tertius le scribe affranchi, et sans doute une écrasante majorité de travailleurs manuels et d'anciens esclaves. Et c'est précisément là que la liste nous lâche une véritable bombe sociologique. Un certain Éraste est salué.
Oui.
Et il n'est pas décrit comme un simple gars du coin. Le texte dit qu'il est le trésorier de la ville, l'édile. Le contraste social donne le vertige. Enfin, comment un type pareil se retrouve dans cette petite cour de maison ?
Eh bien, cela soulève une question importante. Parce que le poste d'édile, à Corinthe, c'est pas un job de comptable bas étage.
Non, hein ?
Non, dans le système romain du mécénat, un édile, c'est un magistrat de très haut rang. Et il doit obligatoirement être extrêmement riche.
Pourquoi ?
Parce que pour obtenir et surtout conserver ce poste politique, il doit financer de sa poche les infrastructures publiques. Donc, paver les rues, organiser les jeux, entretenir les bâtiments publics.
Ah ouais, ils payent tout.
Et ce qui donne à ce détail une dimension vraiment palpable, c'est qu'en 1929, les archéologues qui fouillaient Corinthe ont trouvé un énorme bloc de pavage près du théâtre avec une inscription latine.
Et elle disait quoi, Tube ?
Elle se traduit par « Éraste, en retour de son édilité, a posé ce pavement à ses propres frais ».
Sérieux ?
Oui, et la probabilité qu'il s'agisse du même homme est juste immense.
Mais c'est un choc des mondes total. C'est comme si, aujourd'hui, un grand ministre de l'économie, ou je sais pas, le maire de New York, était découvert comme membre régulier d'un mouvement underground, pas déclaré, et qui se réunit dans le sous-sol d'un immeuble de banlieue avec des ouvriers et des immigrants sans papier.
Ouais.
La friction sociale, la don, devait être explosive.
Mais totalement. Et ça génère d'ailleurs un débat féroce parmi les chercheurs actuels. Parce que dans le livre des Actes, on voit un Erraste qui voyage physiquement avec l'équipe de Paul.
Ok.
Mais si cet Erraste est notre fameux politicien, la réalité sociale de l'époque s'en trouve complètement fracturée. Un magistrat romain avec des obligations civiques aussi lourdes, ça ne quitte pas son poste pour devenir un prédicateur itinérant avec des fabricants de tentes, tu vois.
C'est clair.
La hiérarchie romaine l'interdisait formellement. C'est pour ça que certains analystes suggèrent qu'Erraste fonctionnait plutôt comme un patron extérieur.
Un sponsor, en gros.
Voilà, un mécène. Il finançait peut-être le groupe par intérêt philosophique, mais sans se mêler physiquement à la plèbe lors des voyages. Mais s'il s'asseyait vraiment avec eux chez Gaius le dimanche, bah cela démontre que ce réseau pulvérisait les barrières de classe les plus rigides de toute l'Antiquité.
C'est fou. Alors ce réseau humain, on le voit, il est super complexe. Mais il y a un autre mystère, beaucoup plus vaste, qui ne concerne pas l'identité des expéditeurs, mais la survie même de ces toutes dernières lignes.
Ah oui!
Parce qu'on arrive au verset 25 à 27, qu'on appelle la doxologie finale, la grande conclusion poétique de la lettre. Et là, surprise, on découvre qu'il y a un débat de spécialistes pour savoir si Paul a réellement écrit cette fin. Enfin, l'idée même qu'on puisse perdre ou modifier la fin d'un texte aussi fondamental, ça semble impensable, non ?
Ça nous semble impensable parce que nous avons un énorme biais moderne de standardisation.
C'est-à-dire ?
Eh bien, quand on pense à la préservation des textes anciens, on imagine, tu sais, les scripts officiels des grandes cours royales d'Europe ou les efforts immenses de standardisation linguistique lors du troisième califat pour les textes sacrés.
Ouais, où tout est contrôlé.
Exactement. Où chaque copier est supervisé, certifié par l'État et où le moindre brouillon défectueux est détruit. Mais les lettres du Nouveau Testament ont une genèse totalement inverse.
Ah bon ?
Elles ont été copiées dans la clandestinité, de manière super organique, sans aucun contrôle central, et très souvent sous la pression de la persécution.
Mais concrètement, comment une altération se produit-elle ? Je veux dire, comment on passe d'un manuscrit original à une série de versions où des paragraphes entiers se déplacent ?
Imagine le jeu du téléphone arabe, mais à l'échelle d'un continent et sur plusieurs siècles.
Ok, j'imagine le désastre.
C'est ça. Un premier scribe copie le texte, peut-être à la lueur d'une bougie, il est fatigué et paf, il saute une ligne par erreur.
Ça arrive.
Ensuite, il envoie cette copie en Égypte. Là, un autre scribe copie ce texte imparfait. Il voit que la grammaire cloche et il essaie de la corriger, tu vois, de très bonne foi, en rajoutant un mot de liaison. Et ensuite, il envoie sa version en Syrie.
D'accord, l'effet boule de neige.
Totalement. Au fil du temps, ces petites erreurs de copie ou ces tentatives de lissage, ça se transforme en véritable mutation génétique du texte. Et en étudiant comment ces mutations sont réparties géographiquement, bah la critique textuelle moderne peut littéralement remonter l'arbre généalogique pour retrouver l'ancêtre commun.
Sauf que, parfois, ce ne sont pas juste de simples fautes d'inattention, si. Parce que l'histoire textuelle, elle regorge aussi de manipulations sous la pression politique. L'un des exemples que les notes du docteur Kinner soulèvent, et ça c'est un véritable thriller intellectuel de la Renaissance, c'est l'affaire d'Erasme avec le passage de 1 Jean 5.7.
Ah oui, c'est un cas d'école absolument fascinant des dangers de la transmission.
Raconte.
Manuscrit grec disponible pour publier la toute première version imprimée du Nouveau Testament dans sa langue originale.
C'est un énorme projet.
Gigantesque. Mais il se rend compte d'un truc choquant. Un verset entier de la première épître de Jean, et pas n'importe quel verset, un verset crucial qui parle explicitement de la Trinité, bah il est totalement absent de tous les manuscrits grecs anciens qu'il a sous la main.
Oups.
Voilà. Donc, il décide, en toute honnêteté intellectuelle, de le supprimer purement et simplement de son édition.
Mais c'est dangereux, ça, non ?
Très dangereux. Le problème, c'est que ce verset figurait depuis des siècles dans la Vulgate latine, qui était la Bible officielle de l'institution.
Aïe !
L'onde de choc est immédiate. Erasme est accusé d'hérésie, d'essayer de détruire un dogme central. Et à l'époque, l'hérésie, ça se solde pas par un mauvais article de presse sur Twitter. Hein.
Non, ça se solde par le bûcher.
Exactement. Le bûcher ou l'excommunication.
J'imagine qu'acculé, il a dû faire un compromis, il a triché, hein ?
En fait, il lance un défi complètement désespéré à ses détracteurs. Il leur dit en gros, montre-moi un seul manuscrit grec ancien qui contient ce verset et je vous promets de l'intégrer.
Et ils ont trouvé un manuscrit.
Eh bien, c'est là que la machination se met en place. Un manuscrit grec contenant le verset apparaît soudainement, comme par magie.
Comme par hasard.
La critique moderne a d'ailleurs prouvé qu'il avait été littéralement forgé, rédigé sur mesure, quelques mois plus tôt par un moine juste pour piéger Erasme.
C'est fou.
Et Erasme le sait très bien, il ajoute le verset dans sa nouvelle édition, forcé par la pression politique, mais il inclut une longue note en bas de page pour dénoncer la fraude. Le vrai drame dans tout ça, c'est que la très célèbre traduction anglaise King James du XVIIe siècle s'est basée spécifiquement sur cette édition-là.
Manque qu'ils ont copié la fraude.
Oui, ce qui a cimenté ce verset fabriqué dans toute la culture anglophone pour des siècles. Au passage, il faut quand même nuancer.
Oui, oui.
Ce genre de manipulation massive, ça reste rarissime. D'ailleurs, les deux seuls autres longs ajouts connus dans le Nouveau Testament sont dans Marc 16 et Jean 7-8. L'écrasante majorité du texte est restée extraordinairement stable.
Ok, ce qui nous ramène directement à la grande fin de l'Épître aux Romains. Est-ce qu'on est face à une fraude à l'Érasme pour cette doxologio? Parce que si certains manuscrits placent cette fin ailleurs, et qu'on sait qu'un leader sectaire nommé Marcion l'a carrément coupé de sa propre version, bah comment être sûr de son authenticité aujourd'hui?
On en est sûr précisément grâce à la fameuse génétique des manuscrits dont nous parlions tout à l'heure.
D'accord.
Marcion, il faut savoir que c'était une figure très marginale, qui avait une idéologie féroce consistant à amputer littéralement tout ce qui le dérangeait dans les textes.
Ah, la censure facile!
Voilà, donc sa version à lui ne fait absolument pas autorité. Ce qui prouve vraiment l'authenticité de ces trois derniers versets, c'est leur empreinte géographique, qui est juste écrasante.
C'est-à-dire, on les a trouvés où?
On retrouve cette doxologie exacte dans des manuscrits qui ont été exhumés en Géorgie, dans les montagnes d'Arménie, dans les sables de l'Égypte copte et dans les catacombes de Rome.
Partout, en fait.
Partout. Il est matériellement et statistiquement impossible que des copistes isolés, qui étaient séparés par des milliers de kilomètres, des déserts et des mers, se soient concertés sans téléphone pour rajouter exactement la même fausse fin au même moment.
Oui, ça tient pas la route.
L'arbre généalogique prouve que la racine commune, l'original, possédait bien cette conclusion.
Et quand on s'arrête sur le contenu de cette doxologie, en fait, on comprend très bien pourquoi les Civita l'a préservée. Elle agit vraiment comme une clé de voûte qui verrouille tout l'argumentaire du livre.
Oui.
Le texte résume que le mystère caché est désormais révélé. Et ce mystère, c'est l'inclusion universelle. Ce message n'est plus du tout le monopole d'une seule ethnie ou d'un seul groupe restreint. Le but affirmé, c'est d'amener absolument toutes les nations à s'aligner sur cette foi.
C'est ça. Si on relie cela à une vue d'ensemble, l'auteur affirme que la réconciliation verticale avec le divin provoque obligatoirement une réconciliation horizontale entre les humains.
Ouais.
Ce qui vient, au passage, pulvériser toutes les barrières de statut et d'ethnie que l'on vient justement de voir ensemble dans la cour de Gaius.
Exactement.
C'est la synthèse absolue. Elle cristallise l'idée que ce nouveau mouvement n'est pas juste une simple secte philosophique locale, mais bien un projet de réintégration globale de l'humanité.
Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette plongée dans les crédits de fin? Eh bien, cette liste qui paraissait fastidieuse, pleine de noms étranges, elle nous offre en fait une leçon fondamentale sur la nature du savoir et de l'histoire.
Tout à fait.
Les textes majeurs de l'humanité, ils ne sont pas descendus des cieux sous la forme de livres parfaits, imprimés et dorés sur tranche. Ils ont survécu parce qu'ils ont été portés, sauvegardés et transmis par des réseaux humains profondément désordonnés et vulnérables.
Des gens normaux, quoi.
Oui. Par Tertius, l'esclave numéro 3 qui s'usait les yeux sur son rouleau de papyrus, par des voyageurs complètement fatigués affrontant les tempêtes avec un précieux parchemin caché dans leur sac, par un politicien jonglant avec ses immenses privilèges, et par des copistes traqués travaillant à la hâte. La survie de l'épître aux Romains, c'est vraiment le triomphe de la sueur et de la boue sur l'oubli.
C'est magnifiquement dit. L'histoire des textes n'est jamais stérile, elle est incarnée, elle est pleine de frictions sociales et de réalités logistiques. Et c'est exactement ce qui la rend si tangible et si réelle aujourd'hui.
Absolument. Et cela nous laisse sur une réflexion finale fascinante à ruminer. Pensez à cette image de l'aéroport du début. Au fait, de confier le document de votre vie à un inconnu. Si les copies de ce texte fondamental ont été faites de manière si humaine, si organique, si vulnérable face aux persécutions, dans quelle mesure cette fragilité de transmission rend-elle le message final beaucoup plus puissant et crédible que s'il avait été standardisé de force, protégé par des armées et enfermé dans la chambre forte d'un palais royal?
La question mérite d'être posée.
C'est peut-être justement l'imperfection du réseau qui garantit l'humanité du texte. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des sources.